Club du Grain à Moudre comme chaque vendredi en direct et en public du Bel Air à la Maison de la Radio. À lire les journaux aujourd'hui, à regarder leurs titres en une, on a le sentiment d'une déception relative, parfois même d'une légère inquiétude. Est-ce suffisant, se demande ainsi le Midi Libre, le Dauphiné ou encore l'Est Éclair. Déception, inquiétude et pour cause. La conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir à l'Élysée, puisque c'est elle qu'il s'agit, suscitait une grande attente parce qu'elle marquait la fin du grand débat, parce qu'elle devait répondre à la colère, pour ne pas dire plus, de dizaines voire de centaines de milliers de Français. Il y a eu des annonces différentes pour certaines de celles officieusement dévoilées la semaine dernière, annonces parfois précises, souvent évasives sur les principaux thèmes du grand débat, la vie démocratique, la pression fiscale ou encore la politique sociale. Il y a eu des réponses aux questions de quelques-uns des 320 journalistes français et étrangers accrédités, et il y a eu aussi un mea culpa du président et des paroles qui laissent envisager un changement d'approche, voire de méthode. L'humain d'abord, a dit notamment en substance le chef de l'État. Ces paroles, ces mesures vont donc-elles permettre un apaisement? Vont-elles créer les conditions d'une confiance retrouvée? Le président a-t-il trouvé les bons mots? Bref, Macron a-t-il repris la main? C'est le sujet du Club du Grain à Moudre ce soir. Pour en débattre, trois invités. Hélène Salvi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste chez Mediapart. Vous êtes chargée de suivre les faits et gestes du président de la République, chargée donc de l'exécutif. Et vous étiez hier soir à l'Élysée. Coralie Delhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, auteur entre autres du Couple franco-allemand n'existe pas, publié aux éditions Michelon. Laetitia Strauch-Bonnard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable éditoriale de Phébé, magazine d'idées du Point, un journal dans lequel vous écrivez régulièrement, vous y publiez des chroniques et vous êtes aussi une habituée du Club du Grain. Beaucoup de sujets donc à aborder ce soir avec vous. La conférence a duré 2h30. Hier, elle a été assez riche. Pour commencer, une réponse courte, s'il vous plaît, à la question donc que je viens de poser. Macron a-t-il repris la main? Hélène Salvi.
Je ne crois pas, non.
Laetitia Strauch-Bonnard, ça c'est court, c'est bien.
Je vais faire un tout petit peu plus long.
Oui, allez-y, allez-y.
Sur la forme, je pense qu'il n'avait jamais vraiment perdu parce que c'est le président, donc il convoque, c'est lui qui convoque et c'est lui qui met en scène. Sur le fond, je ne crois pas qu'il ait repris la main non plus.
Coralie Delhomme.
Non, je pense pas du tout qu'il a repris la main et j'attendais pas qu'il la reprenne dans la mesure où je me doutais que ce qu'il allait annoncer, ce serait des aménagements à la marge, mais qui se situent toujours dans un même cadre, qui est celui de la mondialisation et celui de la superstructure européenne. Donc tant qu'il reste dans ce cadre, il ne peut pas annoncer des choses en rupture radicale.
Alors on va revenir plus en détail sur les différentes annonces faites hier par Emmanuel Macron. Avant cela, encore quelques considérations générales. Qu'est-ce qu'elle marque selon vous cette conférence de presse dont il faut rappeler le caractère inédit pour le moment dans ce quinquennat? Hélène Salvi.
Effectivement, en fait, Emmanuel Macron a toujours voulu se distinguer de son prédécesseur François Hollande dans son rapport avec la presse et dans ses relations plus généralement avec les médias de communication. C'était donc sa première conférence de presse formelle à l'Élysée, puisqu'il a déjà fait des conférences de presse par ailleurs quand il est en voyage officiel, etc. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il répondait à des centaines de journalistes convoqués au palais de l'Élysée. Qu'est-ce qu'elle change? Peut-être qu'elle change quelque chose sur le fond, peut-être qu'elle ouvre une nouvelle relation avec la presse. Si cet exercice est amené à se reproduire, peut-être que nous serons, nous, enfin amenés à pouvoir poser des questions directement au président de la République. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, je suis pas persuadée que ça change grand-chose non plus.
Est-ce que cette conférence change quelque chose dans le quinquennat, Laetitia Strauch-Bonnard?
Alors je suis assez d'accord avec vous pour dire qu'en effet, il se place dans les pas de son prédécesseur. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Parce que justement, et pas seulement sur la forme, sur le fond aussi, on a l'impression qu'il prend l'attitude en fait du président de la République française, qui généralement en fait se fait élire sur un programme assez ambitieux, qui a une légitimité politique, et puis qui assez vite freine, fait machine arrière et pas forcément sur les bonnes choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer, mais je dis qu'à chaque fois, la façon de se remettre en question, c'est une façon de ne pas se remettre en question.
C'est-à-dire ?
Là, il faut reconnaître que c'était difficile pour lui parce qu'on lui a demandé énormément de choses. Les revendications des Gilets jaunes n'étaient pas les mêmes que celles du grand débat. Et puis les partis politiques, les syndicats, tout le monde y est allé de ses idées. C'est normal aussi. C'est à ça que sert l'opposition et la société civile. Donc il faut reconnaître qu'il a essayé de faire une grande synthèse. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et moi, j'ai l'impression qu'il essaie de faire plaisir à tout le monde. Si on prend juste l'exemple de la question des dépenses et des impôts, parce que ça, c'était quand même une question importante. Pour moi, il n'a pas vraiment répondu à la question de la baisse des impôts, parce qu'il ne propose pas vraiment de baisse d'impôts substantielle, mais parce qu'il ne veut pas répondre à la question de la baisse des dépenses, qui devrait être tout aussi substantielle pour que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis qu'il fait comme ses prédécesseurs.
On va venir en détail sur les impôts et sur le financement éventuel de cette mesure. Coralie Delhomme, au-delà de la conférence de presse, de l'exercice, parmi les titres de journaux aujourd'hui qui synthétisent en quelque sorte cet exercice, je vous en cite quelques-uns. Même cap, nouveau ton pour l'Union de Reims, la promesse du changement dans la continuité pour la Voie du Nord, un virage en ligne droite. C'est ce qu'écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Vous avez l'idée à peu près. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez perçu aussi de cette conférence de presse?
Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont une série de petits aménagements dans un cadre global qui est celui de la mondialisation et de l'Union européenne, avec les préceptes qu'on connaît, la libre circulation des marchandises, les traités de libre-échange, la libre circulation du capital, la libre circulation des personnes. Donc dans ce cadre, qui est un cadre très contraint finalement, et où finalement la souveraineté du capital finit par primer sur la souveraineté des populations, des peuples. Les aménagements qui sont annoncés ne sont pas des aménagements de rupture, mais c'est essentiellement cosmétique.
Alors, vous l'avez peut-être remarqué et entendu hier, Coralie Delhomme, il y a une expression utilisée par le président de la République que vous allez entendre dans quelques instants, qui change par rapport au discours qu'il a tenu notamment pendant sa campagne. Quelques mots donc prononcés hier, dans lesquels il a répété la ligne directrice de sa politique, une ligne quand même dont vous allez l'entendre légèrement amendée.
Alors, ce nouveau temps, cette mandature est de notre République, je veux lui assigner un objectif simple. Redonner une espérance de progrès à chacun, en demandant à chacun le meilleur de lui-même. Et c'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble très profondément ce que j'appellerais l'art d'être français, qui est une manière très particulière d'être ce que nous sommes. L'art d'être français, c'est être à la fois enraciné et universel, être attaché à notre histoire, nos racines, mais embrasser l'avenir. C'est cette capacité à débattre de tout, en permanence. Et c'est très profondément décider de ne pas nous adapter au monde qui nous échappe, de ne pas céder à la loi du plus fort, mais bien de porter un projet de résistance, d'ambition, pour aujourd'hui et pour demain.
Deux points intéressants dans cet extrait. L'art d'être français, une expression que le président a citée à plusieurs reprises, on va y venir. Et puis donc, pour continuer ce que vous disiez, Coralie Delhomme, ce projet de résistance au monde, est-ce que vous percevez là un changement dans le discours du président ?
Non, pas vraiment. Enfin, c'est facile de dégrainer des choses comme ça, de prendre des postures, de parler d'un air compassé du sens de l'histoire et de l'art d'être français. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, en fait.
Mais ne pas s'adapter, enfin, ne plus s'adapter, essayer de ne plus s'adapter au monde, mais résister au changement, ça doit vous parler, ça.
Alors, est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Résister à quoi en particulier ?
Alors ça, c'est l'un des problèmes, effectivement, de la plus généraux de la conférence d'hier, avec beaucoup d'annonces et parfois pas mal de flou. Sur l'autre expression qu'on a entendue, l'art d'être français, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Hélène Salvi, qui étiez dans la salle ?
Mais pour moi, en fait, ça fait 2 ans que j'entends Emmanuel Macron employer ce type d'expression sans qu'il y ait effectivement pas grand-chose derrière. C'est-à-dire, on peut dire l'art d'être français, le produit de l'histoire, je suis le fruit d'une effraction, c'est très bien, mais enfin bon, d'accord, mais où on va, en fait? Et ça, on ne le sait toujours pas, pour la simple et bonne raison que enfiler en fait des formules un peu grandiloquentes en y mettant le ton et les silences appuyés, ça ne sert strictement à rien dans le quotidien, c'est-à-dire pour nous tous, à rien. Par ailleurs, quand il dit, pour moi, il n'y a aucune rupture avec ce qu'il raconte depuis 2 ans, quand il dit il faut que chacun sache ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter, on est exactement dans la droite lignée de ce qu'il avait dit dans ses premiers vœux, donc en décembre 2017, où il avait dit je veux que vous leviez chaque matin en vous demandant ce que vous pouvez faire pour la France. Enfin, on est tout le temps dans cette qui va, à mon sens, avec une vision libérale de la société, c'est-à-dire on est tout le temps dans ce particularisme, c'est-à-dire on va prendre la personne individuellement et lui dire voilà, tu peux te libérer personnellement et entrer dans la société et faire quelque chose pour la France, ce qui permet au passage, de se dédouaner d'un bon paquet de responsabilités.
Alors, vous vouliez du concret, Hélène Salvi. Eh ben, on y entre, on y va. Intéressons-nous à quelques-unes des mesures annoncées hier à l'Élysée, toujours en les rapprochant de la question initiale posée dans cette émission. Est-ce que le président a repris la main? Commençons par la vie démocratique. Je vous rappelle quelques-unes des annonces donc faites hier. Pas de vote blanc, pas de vote obligatoire. C'est ce qui émergeait parfois du grand débat. Pas de RIC non plus, le référendum d'initiative citoyenne demandé pendant plusieurs week-ends par les Gilets jaunes, mais un aménagement du RIP, le référendum d'initiative partagée, procédure qui, selon les dires du président, sera facilitée. Autre mesure, le retour d'une part de proportionnelle pour les législatives, environ 20% a priori. La baisse du nombre de parlementaires, là ça tourne autour de 30%, mais le chiffre n'est pas totalement arrêté. Et puis un nouveau statut pour les maires. Sur ce sujet donc, compte tenu des revendications exprimées ces derniers mois, est-ce que Emmanuel Macron a entendu et donc a repris la main, Hélène Salvi?
Alors, une fois de plus, je ne crois pas du tout, mais je vais paraître vraiment très pessimiste. Enfin, Emmanuel Macron n'a fait aucune annonce hier sur le plan institutionnel. Il n'a fait que répéter ce qui était déjà prévu dans le cadre de sa réforme qui a été arrêtée à l'été au Parlement en raison de l'affaire Benalla. La réduction du nombre de parlementaires, c'était prévu. L'introduction d'une dose de proportionnelle, c'était prévu. Pas dans ces proportions-là. Visiblement, François Bayrou
a un
petit peu...
C'est un peu augmenté. C'était 10-15% normalement, et on est passé à 20%.
Voilà, le MoDem militait très fortement au sein de la majorité pour que ce soit augmenté. Donc, visiblement, ça a été augmenté un petit peu. Mais la réforme du CESE était déjà
Conseil économique, social et environnemental.
Et par ailleurs, arriver devant des journalistes et dire « je ne ferai pas le vote blanc ni le vote obligatoire », ce ne sont pas des annonces, en fait.
Sur ce point, Laetitia Strauss-Bonnard.
Alors oui, c'est vrai, la plupart des annonces étaient déjà connues. Je pense qu'il a raté quelque chose avec le RIC, parce qu'il en a très peur. La façon dont il parle du référendum, d'ailleurs qu'il n'a pas compris ce qu'était le RIC, parce qu'il pense que le RIC, c'est la même chose qu'un plébiscite qui vient du président. Ça n'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il y a une incompréhension générale de tout le monde, et notamment des politiques, sur ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est pas un dispositif qui a des défauts, qui peut avoir des écueils, mais c'est extrêmement intéressant.
La semaine dernière, dans les fuites des annonces que devait faire Emmanuel Macron avant l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, il était question du RIC, mais du RIC à l'échelon local.
Oui, alors... Je suis pour, je pense que ce serait très bien, je pense que c'est un apprentissage aussi de la responsabilité. C'est pas seulement l'expression l'expression d'un droit démocratique ou l'expression de son opinion politique, c'est le fait d'apprendre aussi que tout n'est pas possible, que certaines mesures ont des conséquences. Et je pense que contrairement à ce qu'on dit, le RIC rend beaucoup plus responsable. Des études montrent en effet que dans les pays qu'il pratique, la population a tendance à être plus informée et même plus conservatrice, pas au sens politique, mais au sens qu'elle ne va pas changer d'avis tous les quatre matins parce que justement, elle sait que ce genre de choix a prête à conséquence. Le RIC national, il fait énormément peur à nos politiques parce qu'il y a plusieurs formes de RIC. Vous avez le RIC législatif, mais vous avez même pire, vous avez le RIC constitutionnel, c'est-à-dire que vous allez permettre à l'ensemble des citoyens de réviser eux-mêmes la Constitution. Alors c'est totalement anxiogène, mais je pense qu'il est en train de rater quelque chose là. Parce que je pense que nous avons besoin en France de renouveler la question de la représentation. Et je ne vois pas d'autre moyen aujourd'hui que celui-là. Et contrairement à ce qu'on pense, la démocratie directe du RIC, ça n'est pas une négation de la démocratie représentative, c'est le fait d'instaurer une forme de compétition en fait entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Parce que si vous savez, comme représentant, que vous êtes menacé par la démocratie directe, vous allez peut-être faire mieux votre travail de représentant.
Emmanuel Macron a parlé hier d'une démocratie délibérative pour tenter d'expliquer ces mesures. Coralie Delhomme, est-ce que vous pensez vous aussi qu'il y a là un rendez-vous manqué pour le président de la République ?
Oui, je suis plutôt d'accord et je pense qu'on devrait faire plus de référendums, ne serait-ce que parce que ce sont des temps de campagne et donc ce sont des temps où les gens s'informent, où ils débattent et où il y a une véritable délibération. Voilà, pas forcément pour faire des référendums tous les six mois, mais je pense qu'il y aurait besoin qu'il y en ait bien plus et que en fait il n'y en a plus en France depuis le référendum de 2005, parce que tout simplement le peuple n'a pas voté comme il fallait et que donc aujourd'hui nos dirigeants ont extrêmement peur du référendum. Maintenant, concernant l'aménagement du référendum d'initiative partagée, le fait de baisser le seuil, enfin de diminuer le nombre de citoyens qu'il faudra...
4 700 000 actuellement, voilà. Et le seuil serait abaissé à 1 million.
À 1 million, pardon. 1 million, ouais. C'est bien, mais c'est pas... C'est bien, parce que 4,5 millions, c'est très difficile à obtenir, 4,5 millions de signatures. Mais l'autre problème du RIP, c'est que si la proposition de loi, par exemple celle qui a été déposée là par les parlementaires, a validée par le Conseil constitutionnel...
Sur la privatisation d'Aéroports de Paris.
Sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Si les assemblées se saisissent de la proposition de loi et la rejettent, le référendum n'aura pas lieu. Voilà, tout simplement. Et comme Emmanuel Macron a une très large majorité à l'Assemblée nationale, autant dire que le référendum n'aura pas lieu.
Encore une question sur la vie démocratique, sur le nombre de parlementaires qui devrait baisser, donc, si toutes ces mesures sont adoptées et mises en œuvre. Est-ce que cela signifie aussi plus de distance, du coup, entre la République, les institutions républicaines et les citoyens? Parce que c'est ce que souhaitaient aussi, d'une certaine manière, ceux qui sont descendus dans la rue, plus de contact avec leurs élus. Hélène Salvi.
En quoi ça renforcerait le contact avec les élus, en fait, qu'il y en ait moins?
Il y en a moins, donc un élu pour plus de citoyens, enfin de parlementaires, pas d'élus, mais de parlementaires.
Non, je pense pas que ce soit comme ça. La réduction du nombre de parlementaires, c'est quand même un vieux serpent de mer. On entend ça depuis très longtemps. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire, j'allais faire une comparaison avec la suppression de l'ENA, mais c'est presque la même chose. C'est-à-dire
qui a été annoncé aussi.
C'est très bien c'est très bien. On annonce la suppression de l'ENA ou on annonce la réduction du nombre de parlementaires, d'accord. Mais pour faire quoi exactement? Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière ça? Pour le moment, moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire concrètement de ces assemblées, des assemblées françaises, en dehors de réduire le nombre de parlementaires, ce qui ne changera rien à quelque chose qui me semble primordial institutionnellement, qui est la question de l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. On n'a eu aucune réponse à ça. Et réduire le nombre de parlementaires ne changera rien à tout ça.
Laetitia Schroeder-Bonnard.
Je suis d'accord, c'est assez cosmétique. Et puis en plus, il a finalement juxtaposé des propositions qui ont une importance très différente les unes des autres. Donc on comprend pas très bien ce que vient faire cette mesure qui, à mon avis, est complètement anecdotique, et d'autres choses beaucoup plus substantielles, comme ce qu'il a pu dire sur les services publics, par exemple. Donc c'est un peu étrange. Je pense qu'il a voulu répondre à la colère des Gilets jaunes qui disaient très souvent, entendaient très souvent dire, il y a trop de parlementaires les politiques ont trop de privilèges. Et peut-être qu'il n'aurait pas dû écouter cette colère-là, parce qu'on sait que ça ne représente pas, sur le budget de l'État, énormément ces parlementaires supplémentaires. Donc c'est vraiment très étrange de le voir se soumettre à certaines revendications et pas du tout en écouter d'autres.
Les services publics, vous en parliez, Laetitia, venons-y. Pas de nouvelles fermetures ni d'hôpitaux ni d'écoles d'ici la fin du quinquennat, donc d'ici 2022, toutefois sans l'accord du maire. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, précisé le président, qu'il n'y aura pas de réorganisation de ces services publics, de ces hôpitaux ou d'écoles. Il a annoncé des points d'accueil, France Service, ce sera le nom, dans les cantons où les services publics sont partis, ont fermé en nombre. Une réforme de l'administration, moins de fonctionnaires centraux, donc à Paris, mais plus de fonctionnaires sur le terrain, l'abandon aussi d'une promesse électorale, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Là encore, sur ce sujet, est-ce qu'Emmanuel Macron, Coralie Delhomme, a entendu les revendications exprimées ces derniers mois?
Non, mais là, il y a un problème de logique, en fait, parce que à la fois, on propose de nouvelles économies, il l'a proposé hier, à la fois, on propose de supprimer des postes de fonctionnaires, à la fois, on propose de rester sur les dispositifs fiscaux qui ont été décidés depuis le début du quinquennat et de ne pas revenir sur l'ISF, la flat tax, etc. Et à la fois, on dit qu'on ne va plus fermer aucun service public. Donc, il y a un problème, là.
Il
y a un problème de financement et de logique.
Hélène Salvi.
Oui, je suis complètement d'accord, mais par ailleurs, sur le financement, c'est toujours la même chose. On est préparé depuis plusieurs semaines dans le cadre du grand débat au fait que à un moment donné, il faudrait toucher aux services publics. Sauf que le problème, c'est que les personnes qui s'expriment dans la rue depuis 5 mois ne disent pas seulement on paye trop, on n'y arrive plus. Ils disent aussi, on n'a plus de service public, on paye pour un service que nous n'avons pas. Donc, c'était compliqué de toucher là-dessus. C'est la raison pour laquelle, en fait, sur les financements, l'équation, le financement notamment des baisses d'impôts qui ont été annoncées, l'équation est encore compliquée à trouver. Raison pour laquelle il a remis dans le débat. Pardon, peut-être je saute des étapes, il a remis dans le débat le fameux « travailler plus ». Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même...
Dont on ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ça signifie, hein, travailler plus.
Alors lui non plus visiblement, parce que pour le moment, il a écarté la question des 35 heures, il a écarté la question du jour férié dont il trouve, il n'y voit pas l'intérêt, et il a officiellement écarté la question de l'âge légal de départ à la retraite.
Oui, il ne veut pas repousser l'âge légal.
Il reste
à 62 ans.
Il ne veut pas le rendre obligatoire, en revanche, il voudrait que ce soit incitatif. Donc finalement, on sait que c'est sur ce mécanisme-là que ça va se jouer. Mais donc de fait, on a des gilets jaunes dans la rue qui disent on travaille trop. Je caricature. On travaille trop et on n'y arrive pas. Et le président de la République, 5 mois après le début du mouvement social, leur répond il va falloir travailler davantage. Moi, c'est ce que j'ai entendu.
Laetitia.
Alors. Juste pour nuancer un tout petit peu ce que vous dites, je pense que dans sa proposition de diminuer l'impôt sur le revenu des personnes les plus modestes, il y a une forme de réponse à ça. Je pense que ça n'est pas suffisant.
Non, c'est pas les personnes les plus modestes, hein, c'est 15 millions de foyers, donc c'est la quasi-totalité des personnes.
Alors, si j'ai bien compris, voilà, il va jusqu'à la tranche de 30% hein, de taux marginal. Donc, c'est des gens qui gagnent jusqu'à 2000 euros. Bien sûr, ce ne sont pas les personnes les plus modestes, mais ce sont des personnes plus modestes que d'autres. Donc, il y a une volonté de faire quelque chose. Moi, je pense que ça n'est pas suffisant. Ensuite, tout à l'heure, on disait est-ce qu'il s'y retrouve dans ses calculs. Je pense qu'il s'y retrouve de deux façons, parce que en fait, il a quand même abandonné sa promesse de campagne. Il me semble qu'il était de diminuer le nombre de fonctionnaires.
De fonctionnaires, oui, de 120 000.
Et c'est quand même plusieurs milliards. Je crois que c'est 4,5 milliards d'euros d'économie. Alors, je trouve ça assez incompréhensible parce qu'il a été élu sur ce programme et on lui demandait pas forcément de faire ça. Mais bref, il choisit de le faire. Par ailleurs, je pense qu'il s'y retrouve aussi parce qu'il va demander aux entreprises de payer. Alors, on ne sait pas très bien comment. Comme d'habitude, on ne sait pas.
Oui, ce qui a été évoqué, c'est la suppression de quelques niches fiscales qui ne concernent que les entreprises.
Mais alors, supprimer une niche fiscale, c'est quand même augmenter les impôts. Et si on a créé des niches fiscales en France, c'est parce qu'on n'avait pas le courage de baisser les impôts. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on complexifie énormément notre système fiscal et budgétaire. À la fin, on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus qui paie, qui reçoit. Et puis, on va essayer d'équilibrer. Et il se livre à cet exercice avec lequel, à mon avis, il voulait rompre. Quand il a fait campagne, quoi qu'on pense de lui, objectivement, il nous disait « Moi, je vais être différent. Je ne vais pas jouer ce petit jeu des partis. » Mais il est en train de le faire.
Quelques mots encore sur les mesures sociales. On a parlé de la baisse de l'impôt sur le revenu. Il faut aussi mentionner la réindexation des petites retraites sur l'inflation, un statut pour les aidants qui avait été réclamé aussi par les manifestants et un dispositif pour mieux aider les mères isolées. Coralie Delhomme, sur ce sujet.
Oui, je voudrais revenir un petit peu sur l'impôt sur le revenu. En fait, le problème, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Hélène Salvi, c'est que c'est pas que les gens disent dans l'absolu qu'ils veulent absolument ne pas payer d'impôt. C'est qu'il y a un problème de justice fiscale et de sur qui pèse l'impôt. Et il y a aussi la question du service public. Les gens ne comprennent pas qu'ils payent de plus en plus d'impôts et qu'il y ait de moins en moins de services publics parce que concrètement, au quotidien, on les voit fermés.
Pourtant, Emmanuel Macron a annoncé hier le retour de services publics.
Il l'a annoncé, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir il y a un problème
cantons.
De logique parce qu'il va diminuer en plus de ça l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt le plus progressif, le plus redistributif. Et il va le diminuer et ça ne bénéficiera pas aux ménages les plus modestes, ceux qui en payent très peu, et ça ne bénéficiera pas non plus à la moitié des ménages qui n'est pas assujetti. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, concernant les retraites, il a annoncé quelque chose qui me semble être a priori erroné, c'est-à-dire que la question de la désindexation des petites retraites a été rejetée par le Conseil constitutionnel pour 2020. Il a annoncé qu'il allait y renoncer, mais ça a déjà été rejeté. Il a annoncé quelque chose qui n'existe, il supprime quelque chose qui n'existe pas. Voilà.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
Macron a-t-il repris la main après sa conférence de presse hier soir? Question posée dans le club du grain à moudre ce soir. Nous en parlons avec nos trois invités, l'essayiste Coralie Delhomme, la journaliste Hélène Salvi de Mediapart et l'éditorialiste Laetitia Strauch-Bonnard. On a parlé des mesures sociales, on a parlé également des services publics depuis le début de cette émission. Parlons maintenant de l'éducation. C'est un sujet qui a été abordé aussi par le chef de l'État qui a annoncé le dédoublement des classes en ZEP pour la dernière année de maternelle, plus seulement ans pour le CP et le CE1 et la limitation du nombre d'élèves à 24 par classe pour la grande section de maternelle, pour le CP, pour le CE1, là, sur l'éducation. Est-ce que ça vous semblait un sujet majeur du grand débat et porté par ceux qui sont descendus dans la rue par les Gilets jaunes, Hélène Salvi?
J'imagine quand même que, alors moi, les grands débats auxquels j'ai assisté, j'avoue que c'est pas le sujet numéro un qui est ressorti. Pour autant, j'ose imaginer que, au même titre que d'autres sujets, type le logement, l'éducation fait partie des sujets d'intérêt des Français. Ensuite, sur le fond de la mesure, moi, il me semblait que le dédoublement des classes étant déjà la mesure quand même. Qu'ils rabâchent, pardon pour l'expression, mais depuis 2 ans, pour expliquer que si ils sont un peu de gauche et un peu sociaux, bon...
Mesure qui a du mal à se mettre en place hein, dans certains départements.
Voilà, et pour autant, la mesure des premiers retours n'a pas les effets escomptés, pour employer un euphémisme.
Faute d'enseignants, faute de lieux aussi, hein, de salle de classe.
Donc, annoncer finalement ce qu'il a annoncé hier, sans retravailler plus globalement le système éducatif... Une fois de plus, ça me semble pas assez, quoi.
Laetitia.
Je pense que l'école aurait mérité un grand débat à elle seule et une conférence de presse à elle seule, parce que c'est vrai que ça, étonnamment, ça ne faisait pas partie des revendications des Gilets jaunes. On les a très peu entendus parler d'école. Dans le grand débat, c'était un peu plus fort. Bon, Emmanuel Macron veut en parler. Il a un ministre de l'Éducation qui est très investi sur ces différents sujets. Mais je trouve que la mesure du nombre d'élèves par classe est finalement très modeste par rapport à l'entièreté du problème. Il y a un sujet d'ailleurs qui concerne les dépenses publiques, pour le coup, qui est, je pense, au salaire des enseignants, par exemple, qui est dérisoire. Si on compare à l'Allemagne, qui a pourtant... Une très grande sobriété budgétaire, hein, et bien en Allemagne, les enseignants gagnent 2 fois plus qu'en France. C'est considérable, ça n'a rien à voir. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi un gouvernement qui s'intéresse à l'école ne commence pas par ça, par augmenter drastiquement le salaire des enseignants.
C'est ce qu'avait suggéré, si je me souviens bien, Nicolas Sarkozy lors de la campagne de 2007, hein, qu'il voulait... augmenter le salaire des enseignants. Coralie Delon.
Oui, je suis assez d'accord avec ça, parce que le salaire des enseignants, quand on regarde ce qu'il est, en réalité, c'est un peu hallucinant. On recrute des gens à bac plus 5 et on les paye à peine au-dessus du SMIC. C'est véritablement un scandale. Alors, on dit souvent, oui, mais ils ont 2 mois de vacances l'été. Oui, mais bah, c'est parce que c'est un salaire qui est calculé sur 10 mois. Donc, voilà. Bon, après, il y a tout un tas d'autres problèmes qui n'ont pas été évoqués, notamment le fait qu'il y a des mécanismes de contournement de la carte scolaire par les gens les plus aisés, etc. Et ça, on ne sait pas y remédier, en fait.
Bon, Emmanuel Macron ne trouve pas grâce à vos yeux donc sur le problème de l'éducation. Peut-être qu'il trouvera grâce à vos yeux sur le sujet de l'écologie. Pas de mesures concrètes réellement annoncées hier, mais quand même 2 annonces. Celle de la création d'un conseil de défense écologique avec donc certains ministres et puis la création d'un conseil de participation citoyenne. 150 citoyens tirés au sort qui vont se réunir, si j'ai bien compris, assez rapidement d'ailleurs, pour faire des propositions directement soumises à l'Assemblée qui pourront être directement soumise à l'Assemblée ou bien être directement soumise aussi à un référendum. Est-ce que, compte tenu de la politique, en tout cas du discours politique d'Emmanuel Macron sur le sujet, ça vous semble être là aussi de nature à réinvestir sa parole sur ce sujet? Laetitia Schroeswaller.
Alors là aussi, je trouve que c'est un petit peu décevant, mais ce qui m'a étonnée, c'est qu'il ne parle pas d'un conseil de scientifiques, par exemple. Parce que c'est quand même un sujet qui, certes, appartient à tous, hein, et c'est important que tout le monde prenne sa part, mais c'est quand même un sujet où on a besoin d'expertise.
Il en existe quand même des...
Oui, mais puisqu'il veut créer des espèces de groupes de travail... Bien sûr, il y en a plein, mais pourquoi il n'a pas proposé, par exemple, un groupe qui fasse appel à des scientifiques français ou étrangers et qui se réunissent et qui travaillent peut-être un peu plus proche hein, des institutions françaises. Je ne sais pas, il y a plein d'idées, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il prend les sujets par le mauvais bout. Il regarde un sujet aussi complexe que l'environnement et il dit on va demander aux gens ce qu'ils en pensent et puis on va demander aux ministres. Bon, voilà.
Hélène, salut.
Oui, moi je suis complètement d'accord. En fait, Pour être tout à fait honnête, je ne trouve pas ça sérieux. C'est-à-dire que les questions environnementales sont censées être au cœur de son projet politique. Et la seule chose qu'il trouve à dire hier, c'est de créer un énième conseil, comme on a déjà créé des réunions, des commissions. Si les ministres ont envie de se parler d'écologie, c'était quand même le cri d'alarme de Nicolas Hulot quand il est parti au mois de septembre 2018. Enfin, il se voit, je veux dire, on n'a pas besoin de recréer une énième structure, nonobstant le fait que les idées pour que les choses avancent sont déjà sur la table depuis des années. Donc simplement, on va peut-être pas passer encore 10 ans à en discuter, juste mettons-les en place.
Coralie Delhomme.
Oui, je pense que c'est toujours, excusez-moi d'en revenir toujours là, mais c'est toujours la question aussi de l'argent qui est le nerf de la guerre. Et si on veut financer la transition écologique, c'est de la même façon. Il faut trouver de l'argent et on peut pas à la fois réduire les impôts les plus progressifs, réduire les ou mettre une flat tax sur les impôts sur le capital, diminuer l'exit tax et dire on va financer de la transition écologique, c'est pas possible. Et de la même façon, on peut pas mettre en place une réforme de la SNCF qui va finir par casser la SNCF qui va finir par aboutir à la fermeture de petites lignes, mettre des bus sur la route et dire on va faire de l'écologie. Là encore, il y a un problème de logique.
Mais est-ce que sur ce point-là, comme peut-être sur d'autres aussi, Emmanuel Macron ne fait pas appel, et je reviens à l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure du président, aux initiatives personnelles, c'est-à-dire donnez à votre pays, faites en sorte que sur certains sujets importants comme l'écologie, les choses avancent. Alors il s'adresse aux citoyens, mais il peut aussi s'adresser aux entreprises. Sur ce point.
Il a raison, l'écologie, c'est un problème à la fois global et d'experts, mais c'est aussi un problème du quotidien. Et c'est vrai qu'il faut y mettre du sien, tous les jours. Donc c'est très important que chacun le fasse. Le problème, c'est que ce n'est pas au président d'organiser ça. Je trouve qu'on vit dans un pays très étrange où c'est le président qui va organiser le fait que des gens s'intéressent à l'environnement. Les gens peuvent le faire dans leur commune. Et je pense qu'il y a plein d'initiatives. Donc, je pense qu'on vit une espèce de pathologie de la centralisation en ce moment. Mais c'est vraiment pathologique. C'est-à-dire que cette centralisation, en plus, est impuissante. Dans le passé, si on regarde l'histoire de la Ve République, le pouvoir avait plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, pour plein de raisons, en plus, il n'y en a plus. Donc, c'est une forme de fantôme, en fait, de la centralisation qui devient complètement malade.
Je voudrais qu'on parle maintenant, parce qu'il nous reste quelques minutes, 5 minutes à peu près, parler de la méthode ou du changement de méthode que j'évoquais tout à l'heure et qui était évoqué aussi par certains journaux ce matin, qui parlait de changement de ton, de changement d'attitude. Certains ont relevé que, pour une fois, Emmanuel Macron n'avait pas prononcé de petites phrases, qu'il avait réussi à respecter l'heure, lui qui est souvent en retard. Il était à l'heure, à 18h, devant les journalistes, même s'il n'a pas su tenir les 2 heures prévues pour cette conférence de presse. Certains ont remarqué aussi un changement dans son discours, encore une fois dans son attitude. Je me suis trompé. J'ai pris conscience de l'épaisseur des vies au cours de ces 5 derniers mois, donc depuis le mois de novembre et le début du mouvement des Gilets jaunes. Il a parlé d'humain aussi. Est-ce que cela, Hélène Salvi, ça vous semble à la fois sincère et est-ce que ça peut créer des conditions d'un retour à une relation de confiance avec une majorité de Français ?
Non, alors moi j'ai pas.
Vous avez l'air sceptique.
J'ai pas jugé la sincérité ou pas. Je pars d'un a priori.
Sentir, oui, ça peut se sentir.
Évidemment positif et pourquoi pas. Je pense tout de même que non, c'est pas vrai. Il y a pas de changement. En vérité.
Il y a pas de changement, rien du tout. Sur l'attitude, sur le ton, ça n'a pas changé.
Mais non, en fait, il a déjà fait, parce qu'il est, entouré de personnes qui le lui ont dit depuis des mois, il a déjà fait, lors d'entretiens télévisés, des sortes de mea culpa sur ces fameuses petites phrases. Moi, je reste persuadée, et d'ailleurs, c'était encore le cas hier, parce qu'il il s'est excusé en disant « j'ai été mal compris, je me suis mal exprimé », mais je voulais pas dire ça. Et d'ailleurs, quand j'étais face aux jeunes horticulteurs, en fait, c'était plus long, c'était sorti de son contexte. Et il dit même aux journalistes « vous ne m'aidez pas ». Enfin, c'est quand même incroyable, quoi.
Oui,
il a des centaines de journalistes en face de lui, donc des journalistes, un contre-pouvoir. Mmh. Et donc, le pouvoir dit au contre-pouvoir, vous ne m'aidez pas. Non, mais encore heureux. Enfin, je veux dire, bon, bref, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire que je pense que quand il parle de traverser la rue, quand il parle du pognon de dingue, je pense que c'est, il le croit, et là, pour le coup, sincèrement. c'est le fond de sa pensée. Après, on aime ou on n'aime pas, ça se discute. Enfin, moi, c'est pas mon sujet, mais il le pense, c'est ce qu'il pense. Donc, c'est pas des petites phrases, c'est sa colonne vertébrale.
Coralie Delhomme.
J'ai l'impression que il avait l'air beaucoup plus secoué quand il a fait son discours au mois de le 10 décembre.
Le 10 décembre. Ouais.
Là, vraiment, on avait senti.
Nous ne reprendrons pas le cours de nos vies.
Voilà, on avait senti davantage de sincérité. Là, bon, la question de la forme, c'est très maîtrisé, mais j'ai un peu du mal à me passionner pour les questions de forme. Il y a une chose que j'ai notée qui était vraiment assez surprenante, c'est que plusieurs journalistes lui ont demandé comment il allait, s'il se sentait bien, s'il avait pas des problèmes de sommeil ou je ne sais quoi. Alors ça, franchement, ça m'a laissé un peu sans voix.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Oui, alors, je vais essayer de ne pas l'accabler, surtout qu'on approche de la fin de l'émission. Donc, je pense qu'il...
Vous l'avez toutes les trois si peu fait, donc vous pouvez vous le permettre.
Il essaie de le dire, mais il a des formules tellement maladroites. Écoutez, dire « j'ai pris conscience de l'épaisseur des vies » quand on est président de la République, normalement, quand on devient président, c'est qu'on a pris conscience de l'épaisseur des vies. Mmh. On est là parce qu'on a l'expérience, on a fait quelque chose et on a la légitimité d'être...
C'est souvent le reproche qui lui a été fait, par l'opposition, mais aussi par ceux qui manifestaient.
Mais je ne comprends pas qui lui écrit ses discours pour laisser des choses pareilles dedans, parce que c'est pas lui qui écrit ses discours. Donc, j'ai pris conscience de l'épaisseur des vies, ça ne va pas. Et en fait, il tend le bâton pour se faire battre. Je pense que ce qui compte, c'est quand même l'action, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle longtemps, qui nous a habitués à ça. On attend de lui maintenant qu'il fasse des choses.
C'est ce que disait Laurent Berger aussi, le secrétaire général de la CFDT dans Le Monde cet après-midi. Ce sont des paroles, nous attendons maintenant des actes. Il nous reste 2 minutes, le temps donc de se projeter un peu. Demain, nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes. Mercredi prochain, nouvelle journée de manifestation, ce sera le 1er mai. Et puis, il y a aussi, dans un mois, les élections européennes. Est-ce que vous pensez que la prestation d'Emmanuel Macron hier peut permettre à la liste La République En Marche, la renaissance européenne, puisse aider cette liste qui a été quand même sérieusement embêtée, pour dire les choses de manière assez polie, par les révélations faites par Mediapart d'ailleurs sur Nathalie Loiseau. Hélène Salvi.
Je vais faire une réponse courte du coup.
Bah oui, s'il vous plaît.
Non, je ne le crois pas. Voilà.
C'est bien, vous terminez l'émission comme vous l'avez commencé, Laetitia Strauss-Bonnard. Vous avez un peu plus de temps, si vous voulez. Ouais.
Je pense que le problème de cette liste, c'est sa tête de liste, mais pas forcément pour la raison que vous avez citée. C'est parce que, avant ça, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de charisme. C'est quelqu'un qui, quand même, a dirigé une école que maintenant le président veut supprimer.
Léna,
donc on se demande d'où vient sa légitimité. Enfin, plus sérieusement, le problème de ce parti aussi, c'est que ça n'est pas un parti. Donc, il n'y a que lui. Il n'y a qu'Emmanuel Macron. Il n'y a personne d'autre qui ait suffisamment de substance, en fait, pour mener une liste importante comme celle-là.
Coralie Delhomme, d'ailleurs, hier, il n'y a quasiment pas été question d'Europe dans le discours du président et dans les questions. Il y a une journaliste allemande qui a posé une question.
C'est très dommage parce qu'en réalité, c'est le cœur du problème. Et j'espère qu'on va en parler davantage à l'approche des élections européennes, parce que les traités européens, véritablement, c'est le cadre. C'est une sorte de constitution, c'est de la constitution économique et d'inspiration en plus néolibérale de l'Europe, à l'intérieur duquel on se meut, mais en étant extrêmement contraint. L'Union européenne est un espace de libre circulation totale du capital, est un espace de mise en concurrence des travailleurs, c'est devenu un espace de dumping social et fiscal géant, et c'est de ça qu'il faudrait parler en réalité. C'est le cœur du problème.
Et ben on va en parler évidemment dans les semaines qui viennent, et on sera ravis de vous inviter, de vous recevoir de nouveau pour débattre du sujet. C'est la fin de ce Club du Grain à Moudre. Merci à toutes les trois. Laetitia Strauss-Bonnard, éditorialiste au Point, Hélène Salvi, journaliste chez Mediapart, Coralie Delhomme, essayiste. Un grand merci aussi à l'équipe du Grain à Moudre, Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Jean-Christophe Brianchon et Cyril Marchand. Merci à l'équipe technique qui a permis la réalisation de l'émission ce soir, Peyré Legras, Nadège Antonini, Charles Bouticourt, Stéphane Desmonts. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Dans quelques secondes, c'est à vous, Arnaud Laporte, pour la dispute.
Ce sera une dispute cinéma, en effet, à 19h03, notre programme des films de Frédéric Wiseman, André Téchiné et Jonah Hill. Vous reviendrez bientôt nous voir,
comme j'entends. Mais pas lundi. Lundi, c'est Julie Gacon qui sera là. Hervé Gargdet, lui, prend encore quelques jours de vacances. Et Julie parlera de la sécurité en Europe avec cette question. Sécurité intérieure, l'Europe fait-elle assez pour ses citoyens?